Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des pays de Savoie et aussi de transmettre et de sauvegarder cette identité savoyarde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le concepteur du premier grand tunnel alpin, c'est Germain Sommelier. En plein essor, au milieu du XIXe siècle, les voies ferrées ne peuvent franchir les montagnes. Comment percer un tunnel de plusieurs kilomètres ? Un Savoyard va trouver la solution. C'est à Saint-Jouard-en-Faucigny, bourgade située à mi-chemin entre Annemasse et Cluses, que Germain Sommelier pousse son premier cri le 15 février 1815. Élève brillant, le garçon poursuit ses études à l'université de Turin, où il décroche son diplôme d'ingénieur en génie civil. Souhaitant se perfectionner, il voyage en Angleterre où il rencontre son confrère belge Henri Maus, lequel, à la demande du roi Victor Emmanuel II, a planché sur un projet de creusement d'un tunnel ferroviaire destiné à faciliter la circulation entre le Piémont et la Savoie, pour remplacer le col du Mont-Cenis, impraticable durant de longs mois d'hiver. Mais un problème crucial demeure. Comment perforer la roche sous 12 km selon le tracé indiqué par un géomètre sarde du nom de Joseph Médaille? Au prix d'efforts gigantesques, on vient de construire en Autriche le tunnel de Semmering, mais ce passage ne mesure que 1431 mètres, et avec des explosifs et des barres à mines, tout en frappant avec des marteaux sur des mèches et trimant comme des forçats, les ouvriers n'ont progressé qu'à la vitesse d'un escargot. Pour sa part, Germain Sommelier participe à la création de la voie ferrée reliant Gênes à Turin. Une succession de rampes, de tunnels coudés, de viaducs, il dépose en 1853 le brevet d'un bélier hydraulique dont la fonction est d'utiliser la pression de l'eau pour comprimer l'air, étonnante machine faite de réservoirs nichés sur les hauts piliers, d'où ce nom de bélier. Jusqu'alors, perforer des trous dans le front de la taille représente la difficulté essentielle, mais l'ingénieur savoyard pense avoir trouvé la solution. Il estime qu'avec son système mis au point et avec l'aide de deux collaborateurs piémontais, l'air comprimé sera produit en quantité suffisante, non seulement pour activer des marteaux-piqueurs pneumatiques capables d'attaquer la roche et même la plus résistante, mais également pour assurer la ventilation des galeries de tunnels envahies par la poussière. Il sait, en effet, d'expérience, dans quelles conditions inhumaines sont réalisés ces travaux et il met donc un point d'honneur à tenter de les améliorer. Reste maintenant à convaincre les autorités de la pertinence du projet. Député de Savoie, Germain Sommelier défend avec conviction et avec passion, affirment ses collègues, son dossier devant la Chambre du Royaume de Sardaigne, dont le chef du gouvernement, Camillo Cavour, est l'un de ses amis. Celui-ci apporte son adhésion complète et le Parlement vote donc les crédits nécessaires au lancement de ce gigantesque chantier. Le premier coup de pioche est donné côté nord à Modane. Le 31 août 1857, en présence de Victor Emmanuel II, de Camillo Cavour et du prince Jérôme Bonaparte, oncle de Napoléon III. Côté sud, à Bardonnèche, les travaux ne commencent que le 14 novembre de la même année. Réalisée à la main, la machine conçue par Sommelier n'étant pas encore véritablement au point, le creusement s'avère beaucoup plus lent que prévu. Début 1861, soit 3 ans et demi après le lancement des opérations, on n'a en effet percé côté sud que 725 mètres. Côté nord, la situation est plus préoccupante en raison de l'extrême dureté de la roche, une espèce de quartziste. Entre-temps, la Savoie a été réunie à la France. Très attaché à ses racines, Germain Sommelier, qui y perd son ami Cavour, décédé à Turin le 6 juin 1861, choisit de conserver la nationalité sarde. Sûr de lui et déterminé, l'ingénieur ne se laisse pas abattre et après multiples essais, des moments d'espoir, des échecs, il réussit enfin à rendre opérationnelles ses machines à air comprimé, nettement plus efficaces que les anciens appareils à vapeur. Alors, les marteaux-piqueurs passent à l'attaque et percent jusqu'à 60 trous à la fois, chaque forêt agissant 10 fois plus vite que le fleuret à main d'un ouvrier. se rendant par tous les temps de chaque côté du tunnel devenu international depuis l'annexion de la Savoie à la France, Sommeiller ne compte pas ses heures et relève enthousiaste que le percement avance de 2 puis de 3 mètres par jour. C'est environ 2000 travailleurs qui se familiarisent peu à peu avec les nouveaux matériels mis à leur disposition et participent à cette aventure hors du commun. L'ingénieur fait installer un plancher séparant la partie basse du tunnel de sa partie haute, où l'air est vicié, chargé de la poussière du forage et étant contenu autant que possible dans cette dernière avant d'être ventilé vers l'extérieur de la galerie à l'aide de compresseurs mobiles installés sur des chariots. Le jour de Noël 1870, Germain Sommeiller reçoit à n'en pas douter le plus beau cadeau de toute sa vie, lorsque les deux équipes de mineurs se rejoignent dans une euphorie plus que légitime. Le tracé rectiligne du géomètre s'avère exact, car il n'y a que 40 cm seulement de décalage entre les deux tronçons. 13 ans et 4 mois ont été nécessaires pour creuser le premier grand tunnel ferroviaire alpin d'une longueur de 12 334 mètres. On l'appelle d'abord le tunnel du Mont-Cenis, par référence au col du même nom. Mais, comme il est situé à l'aplomb du Mont-Fréjus, on le surnomme bientôt le tunnel du Fréjus. Après la mise en place de la voie ferrée, l'inauguration a lieu le 17 septembre 1871. Parti le matin de Turin, le convoi des officiels italiens rejoint Modane où les attendent le ministre français des Travaux publics ainsi que Ferdinand de Lesseps. La grande foule est au rendez-vous, mais sur les visages, la joie est teintée d'émotion. En effet, 2 mois plus tôt, Germain Sommeiller s'est éteint chez lui à Saint-Jeoire-en-Faucigny, victime d'une maladie du cœur. Il avait 56 ans. Œuvre de sa vie, ce passage restera le plus long tunnel ferroviaire du monde jusqu'en 1882, année de l'ouverture de celui du Gothard en Suisse, d'une longueur de 15 km. Le tunnel du Fréjus est électrifié en 1915, mais ses entrées sont détruites par l'armée allemande en 1944. Un tunnel routier voisin est ouvert en 1980, mais des navettes de l'autoroute ferroviaire alpine circulent toujours jour et nuit. Le ferroutage se développe et un projet aussi colossal qu'onéreux est en cours de réalisation pour un nouveau tunnel de 57 km sous les Alpes pour faciliter la circulation entre Lyon et Turin et pour des voyageurs comme pour les poids lourds, dont l'ouverture est prévue environ en 2030 ou 2040. En son temps et avec une audace insolente, Germain Sommeiller a donc montré à tous la voie. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann, ces savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et puis surtout à une prochaine fois.